Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Aujourd'hui, nous avons Émilie à la technique, Valérie au micro et notre invité Michel Moirand. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel Moirand est natif du Limousin et a poursuivi sa vie professionnelle et sa carrière politique en Périgord et plus largement en Aquitaine. Depuis qu'il a raccroché son écharpe de maire, Michel Moirand s'est lancé dans l'écriture. D'auteur à écrivain, il a d'abord publié son autobiographie politique intitulée « Une vie d'engagement », puis un recueil de poésie, puis un récit « Vie brisée », puis une série de romans qu'il a nommé « Étrange destin ». Aujourd'hui, Michel, vous sortez le troisième opus, Les mystères du manoir de la Forge Basse. Michel, vous nous avez confié qu'il y a toujours une fibre sociale dans ce que vous écrivez. Vos romans explorent des thèmes comme l'ascension sociale, les obstacles qui empêchent de briser le plafond de verre, reflétant ainsi vos préoccupations. Peut-on dire que ce cheminement de la politique vers l'écriture est un témoignage de votre capacité à vous réinventer en utilisant l'écriture pour exprimer vos idées et vos valeurs?
C'est une question particulière. La réponse, elle est assez complexe d'ailleurs. Dans ma vie, je n'ai jamais eu de vide, si je puis dire. Ça veut dire que, quels qu'aient été les événements que j'ai rencontrés, qui se sont dressés devant moi, je n'ai jamais eu de grands trous, de passages à vide, de souffrances particulières, même si, évidemment, j'ai eu, comme tout le monde, des malheurs. Nous sommes tous confrontés. Mais ce que j'appelle le vide, c'est-à-dire ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir organiser son temps. Quand j'ai cessé mes activités publiques, dirons-nous, politiques, sociales, j'avais en réserve des recommandations extrêmement fortes de la part de deux personnes. Une personne qui est très connue en Aquitaine, qui s'appelle Anne-Marie Cocula, une historienne qui vit pour partie en Périgord, notamment à Périgueux, qui est une amie de longue date, et qui, au détour d'une conversation en 2015, m'avait dit « Michel, il faudra que tu écrives un peu ton parcours parce qu'il est quand même atypique et qu'il y a des choses qui peuvent intéresser de beaucoup de personnes ». À cette époque-là, en 2015, j'étais au Conseil économique et social, j'avais encore des responsabilités politiques, donc il n'était pas question d'écrire. Et puis il y a une autre personne à qui je tiens très affectueusement, c'est mon petit-fils qui fait des études d'histoire et qui, bien sûr, dans les réunions de famille, dans les repas de famille, on raconte toujours sa vie. Et il me répétait souvent, mais papy, écoute, c'est intéressant ce que tu nous dis, mais comment veux-tu qu'on s'en souvienne? Marque-le, écris-le. Et donc, quand j'ai cessé mes activités en 2020 au Conseil économique, social et environnemental à Paris, eh bien, j'ai pris cette activité, j'ai pris ma plume, avec beaucoup de doutes, pas de certitude, mais beaucoup de doutes pour écrire un livre. Et je me suis mis à écrire ce qui me paraissait le plus facile, c'est-à-dire une autobiographie, parler de moi, parler de ma vie, de mon parcours, il est ce qu'il est. Et donc voilà comment je me suis mis à l'écriture, sans, comme je le répète, sans passage à vide, sans souffrance particulière, dans le manque d'activité.
Ce qui veut dire que les rencontres, on dira, et les faits qui vous ont amené à écrire, c'est Anne-Marie Cocula. Pour nos auditeurs, Anne-Marie Cocula a été conseillère régionale.
C'est là voilà. D'ailleurs qu'on s'est connus.
C'est là tout à fait que vous vous êtes connus.
Nous sommes côtoyés pendant 12 ans.
Écrire demande de sortir de sa zone de confort, d'ouvrir ses savoirs, d'explorer de nouveaux domaines. Êtes-vous de nature curieux, Michel?
Curieuse et pudique. Et le premier livre, qui est l'autobiographie, ça a été un peu compliqué parce que faire une autobiographie, c'est quand même vraiment parler de sa vie. C'est un peu se mettre à nu devant le public, de manière publiquement. Ça a été un peu difficile. Ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même. Est-ce que je dis ceci? Est-ce que je dis cela? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est des éléments qui marquent mon parcours? Donc, c'était quelque chose qui m'a demander une réflexion tout à fait particulière. Et puis, vous avez dit, j'avais écrit une saga, mais avant, j'ai écrit un récit. les récits sur une vie d'une famille qui a vécu en Périgord à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, jusqu'au début du 21e siècle. Et ces deux livres, Autobiographie et Vie brisée, j'étais guidé, j'avais un cadre où j'étais tenu par l'histoire, la mienne, et puis après, dans le second livre, celle de cette famille. Je ne pouvais pas dévier, même si j'ai romancé cette histoire de vie brisée, c'est-à-dire l'histoire de fille-mère. Et puis, quand je me suis mis à écrire la saga d'Étrange Destin, alors là, ça a été une toute autre démarche. C'est du roman, c'est de la fiction. Et là, j'ai laissé aller mon imagination, et quel bonheur de laisser glisser sa plume sur le papier au gré de son imagination, au gré des personnages que l'on a construits, au gré de l'histoire qu'on veut leur faire porter. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ces trois tomes d'Étrange Destin. Et donc, j'ai eu, en écrivant cette saga, beaucoup de liberté et un immense plaisir.
Étrange Destin, c'est l'histoire de deux familles. Les familles Crétoni et Perlongue. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous donner envie?
Oui, je vais essayer de donner envie aux auditeurs. D'abord, c'est l'histoire de deux garçons, deux jeunes garçons. Rencontre tout à fait improbable. Rien ne les prédestinait à se rencontrer. Il y en a un qui est né dans une famille aisée, dans une famille, je dirais pas bourgeoise, mais un peu. Le papa est chef d'entreprise, une grande entreprise, la maman est médecin. Et l'autre, il est né dans une famille d'ouvriers, il a un frère et une sœur, baron qui travaille. Et puis, ces deux garçons, deux jeunes garçons, ont une passion commune. Je ne dis pas comment la passion est née. Les auditeurs le trouveront. Mais ils ont une passion commune qui va les réunir. Qui va les réunir dans un lycée.
Qui est aussi une de vos passions.
La moto, pas ma grande passion, mais je m'y
suis... Il y en avait une autre, je crois, passion, hein, qui les réunit.
Il y en a d'autres passions. La passion du football. Donc,
voilà, c'est à celle-là que je pensais. Voilà.
Donc ces deux garçons vont se retrouver unis. Et puis, dans ce lycée, une amitié extraordinaire va naître entre eux. Et ils ne vont plus se quitter. Ils vont se côtoyer. Ce qui est curieux, c'est que la différence sociale est très grande. Et même les familles vont se côtoyer. C'est-à-dire que le patron va inviter chez lui l'ouvrier maçon et la maman vendeuse. C'est quand même assez, assez remarquable. Et ces deux garçons vont continuer leurs études. Donc, ils vont obtenir le bac professionnel, le mécanicien, moto. Et l'autre continuera sur un BTS qu'il préparera à Nantes. Et ce garçon-là est très doué pour la moto. Il va devenir champion de France et il va faire le Dakar. Et puis en faisant le Dakar, résultat moyen, il va faire des connaissances parce qu'il va rester 15 jours à Santiago du Chili, dans cette ville merveilleuse où les loisirs sont immenses, où les femmes sont nombreuses. Il va faire des découvertes. À 20 ans, 21 ans, il va découvrir la vie de garçon. La vie de garçon au sens relationnel, si je puis dire. Et là, il va rester 15 jours et au moment de partir, on lui demandera de remettre un petit cadeau à la famille qui, ces gens-là, ont à Limoges. Il va faire, il va renouveler un peu. Et puis, il y aura une histoire assez malheureuse, une histoire assez malheureuse pour lui, une double histoire malheureuse. La première, il va avoir un accident extrêmement grave en moto, où il va être paraplégique. Et la deuxième, c'est que c'est dans ses relations en Amérique du Sud, on ne lui aura pas fait transporter du sucre en poudre et il sera accusé de malversation, ce qui sera pour lui insupportable. Et il va écrire à ses parents une lettre. Et dans la dernière phrase de cette lettre, ce qui est très important, il va leur mettre, il est fils unique, « Je vous demande de faire pour Pierre son copain ce que vous auriez fait pour moi. Au revoir, je vous aime. » Tome 1 se termine ainsi. Le tome 2... d'un tome qui va prolonger, bien sûr, cette première partie, où les parents traumatisés, bien sûr, par la mort de leur enfant unique, enfin de leur enfant tout court même. Et la maman va s'engager dans les recherches. Qui a pu pousser mon fils à faire ceci? Elle va même partir à Santiago du Chili. Et puis, recherches seront vaines, mais enfin, l'énigme dénoue l'affaire. Et cette famille finir par adopter ce garçon et lui donner son nom, Pierre Crétoni Perlongue. Et cet ouvrier, dans un petit atelier, va devenir l'adjoint du patron d'une grande entreprise, une entreprise très importante. Alors vous imaginez un petit peu tout ce que ça peut représenter, que j'ai essayé de décrire. Côté émotion, côté responsabilité, le côté inquiétude qui est important.
Les changements de milieu.
Changements de milieu, changements de fréquentation, de relations. La relation avec Zouri, les relations avec la clientèle, la relation avec les diverses autres grandes sociétés. Et donc Pierre va s'adapter, il va travailler beaucoup. C'est un garçon extrêmement courageux, il va travailler beaucoup, au point où son beau-père, puisqu'il a adopté, son beau-père va lui confier beaucoup de responsabilités. Son beau-père va prendre de la liberté, il est un peu âgé, passionné de golf, passionné de vol à voile, deltaplane, etc. Il s'en va, il laisse son gendre guider l'entreprise. Une histoire qui va arriver aussi, d'une nouvelle crise, un peu comme celle que la Covid, mais pas la même. Mais enfin, une crise comme ça. Et puis, le patron, il va avoir un accident. Il va se tuer en parapente. Et donc, Pierre va devenir le grand patron. Patron seul. Ce qui est assez particulier dans ce livre, c'est la relation qu'il entretient avec son copain décédé, avec l'au-delà, par l'intermédiaire d'un médium.
Ça, donc, c'est justement un domaine sur lequel vous avez dû vous documenter, aller un petit peu plus loin pour avancer de manière juste.
Oui, parce que je suis profane en la matière, je ne connais pas du tout. Et quand l'idée m'est venue, parce que je ne voulais pas couper le lien entre ces deux garçons dont l'amitié était si forte. Comment pouvais-je maintenir un lien ? Et donc, cette idée de l'au-delà m'est venue et je l'ai travaillé. Je suis même assisté à des conférences où je suis allé en Dordogne, il y en a même à Périgueux. Je suis allé, je ne connaissais personne ne me connaissait. J'ai écouté, j'ai observé, j'ai vu les gens, les réactions des gens. J'ai été surpris et puis je me suis dit, ça y est. J'ai trouvé en quelque sorte mon fil rouge pour entretenir le lien entre Pierre et son copain. Et donc, tout au long de l'histoire, ça ne va pas les quitter. Ils vont rester ensemble, liés par ces relations avec l'au-delà. Et quand son beau-père va mourir, lui-même va rester en relation avec son gendre et faire des commentaires, le guider un peu dans la gestion de l'entreprise. Ça ira jusqu'au bout de l'histoire. Mais l'histoire, elle se prolonge aussi de manière un petit peu plus heureuse, si je puis dire. Parce que la belle-mère de Pierre, elle est veuve, elle est médecin, elle a une activité en clinique qui lui pèse. Et donc, elle va se lancer dans la formation, dans toute la France, mais très vite, ça va l'ennuyer. Et elle va décider d'acheter un bien particulier en Dordogne.
Et c'est là qu'intervient le manoir de la Forge Basse.
Exactement. Le manoir de la Forge Basse, d'abord, la Dordogne, c'est un département où il y a eu une longue histoire avec les forges. Voilà. Construit les canons qui étaient transportés au port de Rochefort pour embarquer, pour aller dans les pays étrangers. Et donc, l'idée m'est venue de faire référence à une forge, faire référence aux canons, faire référence à notre sous-sol, particulièrement riche dans le domaine du fer. Et donc, j'ai eu l'idée de faire acheter une forge abandonnée avec un manoir lui aussi abandonné, à la belle-mère de Pierre. Conciliabule en famille, etc., parce qu'il y a déjà une villa sur la presqu'île de Gien, une villa prestigieuse, etc. Et personne ne veut s'en séparer, parce qu'on passe les vacances là-bas à Gien. Et donc, la belle-mère va se lancer dans cette rénovation de bâtiment, de cette modernisation, etc. Et puis, il y aura des problèmes financiers. Et le clou du clou, les personnages nouveaux qui arrivent dans cette saga sont cette petite commune, un vieil instituteur, conteur et même raconteur d'histoire qui, dès qu'il voit Pierre au café, un petit café du coin, il lui dit « Ah, vous êtes le nouveau propriétaire. Ah, vous savez, il y a un souterrain étrange qui relie votre manoir à l'église romane du village. » Extraordinaire, ça, quand même. Un souterrain qui relie le manoir à l'église du village. Et donc, Pierre s'interroge, etc. Il en parle à la famille, toute la famille sur le qui-vive, mais où c'est qu'il est, ce souterrain, on cherche. On ne trouve pas l'entrée du souterrain. Et Pierre a noué des relations avec une autre dame du village. Curieuse, cette dame, Mélanie. Mélanie, c'est une vieille dame qui habite dans ce village et qui, tous les matins, à l'aube, tous les matins, va au cimetière et s'incline devant chaque tombe du petit cimetière. Et chaque matin, il y a la dame blanche, la chouette, la dame blanche, qui vient se poser sur son épaule gauche, chemine avec elle, l'accompagne sur les tombes, et après, elle repart dans le clocher de l'église. Et ça, tout le monde la prend pour une folle. Mais qu'est-ce que Mélanie peut bien dire aux tombes, et qu'est-ce qu'elle a de si particulier pour que la dame blanche l'accompagne? On la montre du doigt, on la traite de tout, et puis Pierre veut la connaître. Curieux, vous l'avez dit tout à l'heure, curieux de nature, un peu comme moi. Et donc il va dire, je vais rencontrer cette dame. Et il rencontre cette dame parce que lui, il est en relation avec l'au-delà. Et il s'interroge, est-ce qu'elle, elle-même, elle est en relation au-delà? Et est-ce qu'elle pourra me donner des éléments sur mon copain et sur mon beau-père? Et il la rencontre. Et cette dame, elle va se confier à lui. Elle va l'inviter, elle va se confier, elle va lui faire des confidences. Et dans ce prolongement d'histoire, elle sait où est l'entrée du souterrain. Et elle va donner l'entrée, le lieu exact à Pierre. Et Pierre, il va vouloir le détenir seul, ce lieu précis. Il va le dire à personne. Et il va aller secrètement fouiller ce souterrain. Alors, je ne vais pas tout raconter.
Oui, non, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'autrement, nos auditeurs vont tout savoir, ils n'auront plus envie d'aller l'acheter.
Oui, et voilà. Surtout que je le dédicace prochainement.
Tout à fait. Alors, où va-t-il être dédicacé?
Il va être dédicacé le 21 septembre chez Marbeau, dans la librairie Marbeau à Périgueux.
Oui.
Voilà, c'est la date de sortie officielle. On a attendu un peu l'automne, un peu la rentrée des classes, que les rentrées se terminaient.
Et est-ce qu'il y a des salons du livre qui sont prévus sur cette fin d'année pour pouvoir le retrouver, le livre, pour l'offrir au moment des fêtes?
Alors,
où ça va venir?
Il y a plusieurs rencontres. D'abord, je vais venir sur cette belle commune de Coulounier et Chamy le 26 septembre, un apéritif littéraire. D'ailleurs, je remercie la municipalité de m'avoir invité. Je vais être aussi à une radio un peu comme la vôtre à Ribérac, le 14 octobre. Je vais être au salon de Hautefort, au salon de Coulor, et puis je peux vous l'annoncer, vous êtes les premiers, je vais l'annoncer, hein, vous donner la primeur de cette annonce. Je l'ai appris ce matin, je suis retenu par la foire de Brive pour revenir pour la troisième année. C'est mon livre « Les mystères de la Forge Basse » qui a été retenu par la sélection de la foire de Brive. Donc je serai 3 jours, 8, 9 et 10 novembre à la foire du livre de Brive.
Ça, c'est une magnifique invitation.
Oui, je suis très content, je suis ravi parce que ce sera ma troisième année consécutive que je serai à la foire du livre de Brive. C'est pas facile d'y être. Et nous sommes nombreux, 400 auteurs, mais il y a quand même près de 80 000 visiteurs. Et c'est une deuxième manifestation littéraire en France après le Salon du Livre de Paris. Donc ce n'est pas rien.
C'est énorme. C'est une référence, c'est une belle référence.
Je suis très content, très très content.
Ouais. Si on revient sur cette saga, donc je l'ai lu, il y a 3 tomes. Le premier a commencé, je dirais, au passé simple.
Oui.
Puis il s'est terminé au présent. Est-ce qu'il y aura un 4e tome qui sera le futur?
Bonne question. Non, il n'y aura pas de 4e. Mais il y a 2 autres livres en préparation. Il y a un nouveau roman qui est à la correction actuellement, donné à ma correctrice préférée, qui travaille dessus, avant de le proposer aux maisons d'édition. Et puis, je suis en train de commencer. J'ai achevé, il y a 10 jours, le plan, le schéma de mon prochain roman. Je suis en train de travailler dessus.
On va revenir sur l'écriture. Est-ce que vous avez rencontré d'autres auteurs pour parfaire votre écriture? Parce que c'est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un cheminement. Passer de la vie politique à celui d'écrivain, C'était peut-être pas naturel, si.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, pour être très honnête, je n'avais pas imaginé, quand j'étais en activité, un jour écrire un livre. Je crois que je n'avais pas de prédisposition particulière. Fallu que ça se trouve comme ça, que je sois assez poussé par les deux personnes que nous avons évoquées ensemble tout à l'heure pour me mettre à l'écriture. Mais oui, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de renseignements. Je travaille sans précipitation et j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup les conseils, les recommandations. Et les salons, c'est un moment d'échange avec le lecteur, mais c'est aussi un moment d'échange avec les autres auteurs. Et chacun a sa spécificité, chacun a sa méthode, chacun a son organisation personnelle. Et de tout ceci, moi, j'en extrais un certain nombre d'éléments qui me permettent, enfin, je l'espère tout du moins, de m'améliorer, d'enrichir ma plume. Parce que c'est un travail difficile. Si je veux être un peu direct, aligner les mots les uns derrière les autres, en faire une phrase, pour de cette phrase en faire un paragraphe, de ce paragraphe en faire des chapitres, et des chapitres en faire une histoire et un livre, quand on n'a pas une vocation particulière, quand on n'a pas fait d'études littéraires, des hautes études littéraires comme moi, c'est contraignant, je le reconnais.
Oui, tout à fait. Et par contre, là, je reprendrai une phrase de votre éditeur, une phrase qui vous a glissée il n'y a pas très longtemps. Michel, tu étais un auteur. Maintenant, avec ce troisième opus, tu es devenu un écrivain. Oh, c'est très beau.
Oui. Oui, oui. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il n'était pas excessif. Bon, on se connaît bien maintenant. Je lui ai dit, mais c'est un beau compliment. Il me dit, non. Il me dit, c'est sincère, c'est mérité. Et il a rajouté, c'est un petit éditeur de Carcassonne. Il m'a dit, mon objectif, c'est que tu sois édité par une grande maison un jour. On verra.
Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, Michel.
Merci.
Et on le
merci
souhaite vraiment beaucoup. Du fond du cœur.
Merci beaucoup.
Notre émission arrive à son terme, ça passe très très vite. Donc je vous ai demandé aussi si vous aviez une chanson, une musique que vous aviez envie de nous faire partager. Vous avez choisi « L'hymne à la paix » par Sarah Gérant. Pourquoi ?
Ah, vous savez, le contexte, il est quand même le contexte international, le contexte mondial est tellement troublé aujourd'hui. Les repères sont tellement bousculés. L'agressivité est tellement présente dans la société. Les humains ne se supportent plus. Si tant est qu'ils se soient supportés un jour. Mais il y a une violence à tous les coins de rue, quasiment. Et moi, ça me perturbe. Ça me perturbe grandement. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'hymne à la paix. Alors j'aurais pu choisir beaucoup d'autres, mais j'ai choisi cette chanson-là parce que c'est quelque chose qui vient du plus profond de moi-même, que je ressens tous les jours de manière très intense. Et je me dis, est-ce que nous allons cesser, est-ce que les humains vont cesser de s'agresser, de se battre pour des questions de pouvoir, pour des questions de croyance, pour des questions de matériel, pour des questions d'argent. Est-ce que l'humain est capable un jour, lui qui est l'animal, le seul animal à avoir la raison, est-ce qu'il va être capable un jour de cette raison d'en faire la paix ? Voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson-là.
Faire la paix, partager, vivre dans l'amitié.
Bien sûr.
Merci Michel. À très bientôt et belle continuation dans l'écriture.
Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Ceci est un hymne à la paix. Papa est parti ce matin, s'est levé tôt sans dire un mot, a emprunté le même chemin que chaque jour et tout sa poule. Et ne sa vie est par amour, protéger famille et fierté, pour vivre en toute dignité. Sur le chemin il est tombé, sur des brigands de pauvres gens. Ainsi papa il s'est trompé, mauvais endroit, mauvais moment. Si papa s'en est allé et moi j'ai perdu un parent. Ooh, yeah. est un hymne à la paix. Je suis née en Haïti, terre oubliée et déchirée. Moi je l'aime beaucoup ce pays, mais lui m'a vite abandonnée. Quand on est venu me chercher, on m'a placée à l'infanterie. À peine âgée de 14 ans, mais où est donc passée l'amnésie? J'ai plus que l'ombre d'un enfant, infanticide à peine masqué. J'ai rejoint les bancs de l'armée, j'avais pourtant rien demandé. J'ai su et j'ai détesté, et pourtant je reste convaincue qu'un jour tout sera terminé. Je n'ai connu que la guerre, la mort, la perte, tous ses travers. J'ai toujours été éduquée dans la haine et la douleur. Apprendre à survivre plus qu'à vivre, ici c'est l'ignorance du cœur. Pourtant au fond de moi je sais que nous viendrons des jours meilleurs. Et ce soir je mourrai noyée à cause d'un Occident qui a trop peur. Ce n'est pas qu'un cri du cœur, mais bien un cri plein de douleur. Nous sommes tous nés bien différents, mais avons tous eu des enfants. Qui demandait à être aimé sans chercher jamais à prouver que l'être humain a oublié sa vraie valeur. Celle du cœur, celle du cœur, celle du cœur. Dans mon dernier souffle, je rirai. Ceci est un hymne à la paix.